Bonjour, l'oncle Charles retire ses lunettes parce qu'il va devoir réfléchir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'où vient la croissance économique. Bon, parce que pendant des centaines de siècles, et depuis que l'homme a commencé à marcher à quatre pattes, je ne sais pas où, on avait toujours été dans une économie stagnante. À somme nulle, en quelque sorte. Il y avait ceux qui étaient au sommet, qui vivaient bien, puis ceux qui étaient en dessous, qui vivaient comme des rats. Et puis, il y a à peu près 250 ou 300 ans, d'un seul coup, on est rentré dans une économie à somme positive, c'est-à-dire que, il y a eu la croissance économique qui est arrivée dans le système. Et ce qui est très étonnant, c'est que la plupart des gens qui raisonnent sur l'économie, je fais aujourd'hui avec Emmanuel une critique du livre de Emmanuel Tad, partent du principe qu'en quelque sorte, c'est un acquis, cette croissance économique, c'est quelque chose qui est là, on ne comprend pas très bien pourquoi les gens ne l'attrapaient pas dans le passé, mais on a des idées très nettes sur la façon dont il faudrait la traiter au fur et à mesure qu'elle se produit. Eh bien, c'est pas du tout vrai. Donc, pourquoi y a-t-il croissance économique? D'abord, au départ, je vous l'ai expliqué souvent, vous avez un changement juridique qui se passe avec la protection du droit de propriété, le vote des impôts par les citoyens, la tolérance, et tout ça, ça s'est très bien passé au moment de Locke au XVIIe siècle, puis c'est ça qui a entraîné la croissance économique. Donc, au départ, tout commence par un changement dans le droit et par la protection de l'individu contre l'État. Ce qui était une innovation un petit peu. Donc, changement de droit qui permet le décollage. Et ensuite, avec le bénéfice du temps et les gens qui ont étudié tout ça, on s'est rendu compte que dans le fond, il y avait deux sortes de croissance économique. La première, c'était ce que j'appelle dans mon jargon la croissance ricardienne. Pourquoi ? Parce que celui qui l'a mis en lumière le mieux, c'est un homme qui s'appelait Ricardo, que dû réfléchir et écrire aux alentours de 1820-1830. Et dans le fond, il disait la croissance économique vient quand le changement juridique qui avait eu lieu un ou deux siècles plus tôt permet à de plus en plus de gens de spécialiser de mieux en mieux en fonction de ce qu'il avait appelé, ce qui était un coup de génie, la loi des avantages comparatifs. Alors, en principe, ça marche entre les pays. Chaque pays spécialise dans ce qu'il fait le mieux. C'est très bien. Mais je vais vous en donner un exemple qui est peut-être plus facile à comprendre. Imaginez que vous ayez un homme qui soit un excellent chirurgien, ou une femme, excellent chirurgien, et qui facture ses prestations, je ne sais pas, aller à 2000 euros de l'heure, ou j'en sais rien. Et qu'elle ait besoin d'avoir une secrétaire qui lui paiera 200 euros de l'heure. Mais le chirurgien, compte tenu de ses grandes capacités manuelles et intellectuelles, tape trois fois plus vite que sa secrétaire. Et donc, on se dit, mais pourquoi il a qu'à taper lui-même, il fera en un tiers de temps ce que la secrétaire fait en trois fois plus de temps. Oui, mais dans ce tiers de temps, il aurait pu faire toute une série d'opérations qui lui rapportera beaucoup plus que ce qu'il va payer à la secrétaire. Donc, il a tout intérêt, lui, à faire ce qu'il fait le mieux, et à déléguer à quelqu'un d'autre ce qui fait moins bien. Et c'est vrai à l'échelle des nations, c'est vrai partout. Donc la première des choses qu'il faut comprendre, c'est quand une zone qui était autrefois en guerre s'ouvre à la paix, par exemple, comme l'Europe en 1945, vous avez des possibilités quasiment infinies d'amélioration de la productivité, simplement parce que ceux qui ont besoin d'énergie vont chercher leur énergie en Allemagne, ceux qui ont besoin de travail vont les chercher ailleurs, donc vous avez une espèce comme ça, et ça c'est la croissance ricardienne, qui est par une meilleure utilisation du travail, du temps, des hommes et du capital, chacun se spécialisant dans ce qu'il fait mieux. Mais il faut bien se rendre compte que c'est une croissance qui, par nature, est finie. Une fois que tout a été installé, que tout marche, que on a toutes les infrastructures, d'où viendra la croissance après? Donc la croissance ricardienne est par définition finie. Et elle peut partir en marche arrière s'il y a des nouveaux conflits ou s'il y a des corneaux qui, dans la capitale comme Bruxelles, décident de mettre tellement de barrières à la production que finalement, ça ne paye plus de produire à ce moment-là. Donc, première croissance, la croissance ricardienne, mettons, allez, pour la main invisible d'Adam Smith, vous savez, c'est mon vieux truc. C'est-à-dire que les gens demandent ce qu'ils veulent et les gens, d'autres gens qui s'appellent les entrepreneurs se décarcassent pour leur vendre les produits dont ils ont besoin, et le meilleur l'emporte. Donc il y a un côté aussi darwinien. Et puis, il y a eu un autre très grand économiste, qui personnellement a toujours été mon favori dans mon panthéon des économistes, qui est Schumpeter, qui dit que la croissance vient de l'invention. Et alors l'invention, c'est quelque chose de très curieux, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant. On ne peut pas le concevoir, puisqu'on ne l'a pas fait, on ne sait même pas que ça existait. Et l'archétype de l'invention, si vous voulez, c'est quand vous passez des bougies et des lampes à huile à l'électricité. Vous rentrez dans un monde qui n'est pas un monde qui est différent à la marge, mais c'est un monde qui est différent par nature. L'invention change complètement, elle peut changer tout le système de production également. Et cette invention, Schumpeter l'a appelé de façon très intelligente, c'est la création destructrice. C'est-à-dire que quand vous inventez l'ampoule, vous pouvez être le meilleur producteur, le plus efficace de chandelles, ça n'empêche que vous en prenez un vieux coup derrière la tête. En fait, vous disparaissez. L'invention de l'électricité implique l'effondrement des fabricants de chandelles ou des ventes à huile. Je vous donne un exemple. Vous allez aux États-Unis, au large de New York, il y a Long Island, qui est une espèce de longue île qui rentre comme ça dans l'eau. Et avant l'invention, vous aviez tout au bout de Long Island un port qui était spécialisé dans les baleiniers. Et les baleiniers, on allait les chercher. Pourquoi ? Parce qu'on prenait la graisse des baleines et avec ça, on faisait une huile avec laquelle on pouvait s'éclairer. Et bien aujourd'hui, il n'y a plus de baleiniers. C'est devenu un endroit extraordinairement à la mode. C'est sans doute l'immobilier le plus cher du monde, mais ça n'a plus rien à voir avec la baleine. Donc ça a complètement changé toute une série d'industries, la création destructrice. Et là, ça amène à cette création destructrice, elle a quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle est infinie. Je veux dire par là qu'elle est limitée que par la capacité de l'esprit humain à trouver quelque chose de neuf quand il a un problème à traiter. Et j'ai toujours été fasciné par ça, parce que très souvent dans l'histoire, vous voyez que l'invention est la fille de la nécessité. C'est-à-dire que vous êtes là, vous ne trouvez pas de façon de vous nourrir, allez. Et puis vous avez des gars qui travaillent dans les sociétés de recherche agricole, qui inventent une sorte de blé avec une tige beaucoup plus courte. Et du coup, l'Inde, à la place de souffrir d'une famine abominable il y a 30 ans, exporte du blé aujourd'hui. Donc vous voyez, il y avait la pression démographique qui disait l'Inde ne va pas réussir à se nourrir. Il y a des gens qui ont travaillé sur le sujet, qui ont trouvé une solution, qui était de faire un blé à tige beaucoup plus courte. Et c'est ça qu'on voit tout le temps. Et c'est pour ça que fondamentalement, je ne suis pas pessimiste quand il y a un problème qui arrive. Je le regarde presque avec amusement en me disant, par exemple, le problème énergétique aujourd'hui, c'est pas que ça m'amuse, parce que je me dis, qu'est-ce qu'ils vont encore trouver ? Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va trouver quelque chose quelque part, quoi. Et j'ai assisté à Londres à une conférence, il y avait toute une série de gars qui présentaient des solutions. Et c'était marrant, ça allait de nouveaux formes de végétation avec lesquelles on faisait du pétrole, à des réacteurs nucléaires portables. Enfin, il y avait toute une série de solutions, mais j'ai trouvé ça passionnant parce qu'encore une fois, on voit cette extraordinaire capacité de l'homme à inventer. Mais pour qu'il invente, il y a encore deux choses qui soient nécessaires. C'est qu'il soit libre de penser par lui-même et qu'une fois qu'il a trouvé l'invention, il en ait les fruits en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il soit propriétaire de son invention, qu'on ne lui vole pas, qu'on ne la prenne pas, ou qu'on ne l'enferme pas. Et donc, ce que je trouve, encore une fois, pour que cette création destructrice puisse fonctionner, il faut qu'on retrouve les conditions de Locke, qui permettent la propriété, la liberté de penser, toutes ces choses-là. Et quand je regarde, et je vais terminer là-dessus, quand je regarde la plupart des écrits qui sont faits aujourd'hui sur la croissance économique, par mes distingués collègues, je suis toujours stupéfait de voir une chose, c'est qu'ils pensent que c'est l'État qui est responsable de la croissance économique. Ils disent l'État devrait faire plus d'infrastructures, l'État devrait gaspiller du capital, voilà ce qu'ils vous disent. Parce que l'État, il n'est pas capable de créer l'épargne, hein, il ne fait que gaspiller du capital. Et donc ce que je dis simplement, c'est que je suis stupéfait de voir à quel point tous mes petits camarades économistes ont une solution pour la croissance qui est une intervention étatique plus forte. Mais si c'était le cas, vous pouvez m'expliquer pourquoi on n'a pas eu de croissance étatique depuis notre sortie de l'Afrique, c'est-à-dire à peu près 3 millions d'années. Pourquoi on a eu ces sociétés stagnantes partout et pourquoi on a cessé de stagner? C'est parce que, au XVIIe en Angleterre, les hommes ont pu parler librement, investir librement et être protégés par un État dans ce qu'ils avaient de plus précieux, c'est-à-dire leur vie et leurs biens. Mais ce n'est pas l'État qui est créateur de la croissance. C'est à chaque fois un individu et un seul qui a une invention. D'où la suprématie de l'individu sur l'État. Merci beaucoup.